Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts de Protolabs. Cette série de podcasts vise à vous aider dans la conception des pièces destinées à la fabrication numérique. Voici le second podcast de ces conseils utiles qui vous aideront à économiser temps et argent. Nous allons publier un podcast régulièrement, les autres restant disponibles pour une écoute à tout moment. Dans ce podcast, je vais vous parler de quelques éléments essentiels pour la conception de vos pièces pour l'injection plastique. Les sujets que nous aborderons aujourd'hui sont les suivants. Les bases de la conception pour le moulage par injection. 9 défauts esthétiques et comment les éviter. 3 éléments clés de conception pour le surmoulage rapide. Et enfin, la conception de pièces résistantes avec moulage d'insert. Voici donc notre premier sujet, les éléments essentiels pour concevoir votre pièce moulée par injection. Les pièces arrivent au moulage par injection par des chemins différents. Certaines sont d'abord prototypées en impression 3D, où les questions de moulabilité ont une importance limitée, alors que d'autres suivent un itinéraire d'usinage plus classique qui permet la réalisation d'essais itératifs avec des résines techniques semblables à celles du moulage. Enfin, beaucoup accèdent directement au moulage par injection en sautant ces étapes. Nous savons d'expérience que certains éléments de conception doivent être pris en compte avant le lancement de la production. Cela permet d'améliorer la moulabilité des pièces et donc de réduire le risque d'incidents de production, de défauts d'aspect ou d'autres problèmes. Voyons d'abord la dépouille et les rayons d'usinage. L'utilisation de dépouilles et de rayons d'usinage est cruciale pour la bonne conception d'une pièce injectée. Dans la mesure où la résine se rétracte sur le noyau du moule, la présence d'une dépouille permet de réduire les frottements lors du démoulage de la pièce. Une faible dépouille nécessitera l'application d'une pression importante sur le système d'éjection et risquera d'endommager les pièces, voire le moule. Une bonne approche empirique consiste à prévoir 1 degré de dépouille pour 25 mm de profondeur d'empreinte, bien que cela puisse demeurer insuffisant selon le type de résine choisi. Protolabs a recours au fraisage à commande numérique pour la fabrication de la plupart des éléments des moules. Notre procédé de fabrication permet d'obtenir une épaisseur de paroi et un angle de dépouille basé sur la fraise utilisée pour usiner chaque élément. C'est là que notre analyse de faisabilité devient particulièrement utile. En effet, notre logiciel étudie séparément chacun des éléments de la pièce et les compare à notre jeu d'outils. L'analyse de faisabilité signale les géométries de la pièce qui peuvent nécessiter une dépouille ou une épaisseur plus importante. Les rayons d'usinage, en revanche, ne sont pas indispensables en moulage par injection. Il est cependant recommandé d'y avoir recours pour différentes raisons. Ainsi, en éliminant les angles vifs de votre pièce, vous améliorerez non seulement l'écoulement de la résine, mais aussi la résistance de la pièce. À l'instar d'un cours d'eau, la résine qui remplit l'empreinte du moule s'écoule mieux lorsque les angles sont arrondis. Les cours d'eau ne forment pas d'angle à 90 degrés. L'eau qui s'écoule crée des angles internes et externes et serpente ainsi sans effort jusqu'à sa destination. Selon le même principe, la résine essaie de suivre le chemin où elle rencontrera le moins de résistance afin de minimiser les contraintes exercées sur le matériau et sur le moule. Comme les dépouilles, les rayons d'usinage facilitent l'éjection de la pièce car les angles arrondis réduisent le risque que la pièce adhère au moule, provoquant sa déformation, voire sa rupture. Épaisseur de paroi. Intervenir sur l'épaisseur de paroi dès la phase de conception permet de mieux maîtriser l'esthétique, le poids et la résistance mécanique de la pièce. Des pièces trop épaisses présenteront des rotassures inesthétiques, une déformation ou des cavités internes, des poches d'air. Pour éviter ces problèmes, il existe des épaisseurs de paroi recommandées selon les matériaux. Attention, il ne s'agit que d'une règle générale. Toutes les pièces n'auront pas les épaisseurs de paroi hautes et basses indiquées dans le tableau. Par exemple, L'épaisseur de paroi recommandée pour l'ABS est comprise entre 1,143 et 3,556, pour l'acétal entre 0,762 et 3,048. Vous pourrez trouver la liste complète sur la partie de notre site web consacrée au moulage par injection plastique. Noyautage et nervurage. Outre une bonne épaisseur de paroi, d'autres éléments doivent être pris en compte pour garantir une bonne conception de pièce. Certains penseront que plus une pièce est épaisse, plus elle est résistante. C'est faux. Une pièce bien conçue qui est destinée à supporter des efforts doit contenir des nervures et des goussets de renfort qui augmentent la résistance mécanique et permettent d'éliminer les défauts d'aspect comme les déformations, les rotassures et les cavités. Commencez par évider votre pièce épaisse. Vous conserverez le diamètre et la hauteur hors tout de votre pièce sans en sacrifier les performances. Il y a également de fortes chances qu'une telle opération améliore les performances et l'aspect de votre pièce. Concentrez-vous ensuite sur la conception des nervures de renfort. La meilleure façon de concevoir des nervures consiste à utiliser un coefficient d'épaisseur nervure à paroi représentant 40 à 60% de l'épaisseur des surfaces adjacentes. Le corps de la pièce doit quant à lui être conçu avec une épaisseur suffisante. Toute nervure ajoutée sur ce corps devrait idéalement avoir une épaisseur telle que épaisseur nervure égale 1/2 de l'épaisseur corps. Cela permet d'éviter la présence de zones épaisses qui risquent de ne pas refroidir à la même vitesse que les zones minces. Cela permet également de limiter les rotassures et les contraintes susceptibles de déformer la pièce. Les chanfreins et les goussets sont d'autres éléments de conception qui permettent de renforcer et d'améliorer l'aspect de votre pièce. Là encore, la résine préfère les transitions en douceur entre les géométries. Un petit chanfrein facilite l'écoulement de la résine entre deux niveaux différents. Les goussets permettent de renforcer les parois ou éléments tout en réduisant les contraintes de moulage. L'empreinte centrale. Le noyau et l'empreinte sont souvent appelés moitié A et B ou moitié supérieure et inférieure d'un moule. Une approche de conception à empreinte centrale peut réduire les délais et les coûts de fabrication et améliorer l'aspect général de la pièce. Imaginons que vous conceviez une pièce comme une simple boîte. Si vous appliquez une dépouille aux surfaces intérieures et extérieures dans une même moitié de moule, vous devrez créer une nervure très profonde qui sera difficile à utiliser, à usiner, pardon, et qui augmentera le coût du moule. Cela augmentera aussi le risque que le moule soit endommagé en raison d'une éjection difficile, ainsi que le risque de moulages incomplets par manque de dégazage dans la rainure profonde. Vous pouvez minimiser tous ces risques en utilisant une approche à empreinte centrale. Cette technique de conception nécessite l'application d'une dépouille aux parois intérieures et extérieures, de telle sorte qu'elle soit parallèle. Cette méthode garantit une épaisseur de paroi uniforme, préserve la qualité de la pièce, améliore la résistance mécanique et la moulabilité, et diminue les coûts de fabrication globaux. Contre-dépouille. Une idée fausse consiste à dire que le moulage par injection rapide nécessite que la conception soit la plus simple possible. C'est faux. Nous prenons en charge les conceptions de pièces qui nécessitent des contre-dépouilles, des trous débouchants, ainsi que d'autres éléments. Les contre-dépouilles externes sont les plus simples et les plus économiques à y réaliser, car nous utilisons des tiroirs actionnés par broche. Ces tiroirs évoluent en tandem avec le moule lors de son ouverture et de sa fermeture, tandis que la cam coulisse le long d'une broche inclinée. Lorsque le moule est ouvert, la cam est complètement reculée, si bien que la pièce peut être éjectée facilement sans endommager le moule. La cam se remet en position lorsque le moule se referme pour créer la pièce suivante. Lorsque l'utilisation de tiroirs ne convient pas, nous pouvons avoir recours à des inserts manuels. Les inserts sont des éléments du moule qui sont plus gros qu'un cube d'un demi-pouce et qui sont mis en place par un opérateur dans la presse avant sa fermeture. La pièce moulée est alors éjectée avec l'insert. L'opérateur prend la pièce et retire manuellement l'insert avant de le remettre en place pour le moulage de la pièce suivante. Injection et éjection. Les points d'injection et les éjecteurs sont indispensables pour que la résine pénètre stratégiquement dans le moule et que les pièces en plastique puissent être éjectées facilement. Nous savons d'expérience que l'injection et l'éjection de votre pièce peuvent être réalisées de façon différente et vous devez penser à l'emplacement de ces éléments avant de passer à la fabrication du moule. Les points d'injection en nappe sont les plus courants. Ils offrent les meilleures possibilités de traitement aux techniciens plasturgistes et peuvent être agrandis si le processus l'exige. Un point d'injection en nappe s'amincit à partir du canal d'alimentation, de telle sorte que son plus petit diamètre se situe au niveau de la surface de la pièce. Cela crée une zone de solidification entre la pièce et le canal d'alimentation, qui évacue la chaleur de la surface de la pièce. Votre objectif est d'évacuer la chaleur de cette surface afin de minimiser tout risque de rotassure dans la pièce. Après le moulage, le point d'injection en nappe doit être retiré manuellement, laissant une trace de 0,13 mm. D'autres types de points d'injection existent, en particulier les points d'injection directs et les points d'injection en sous-marin. Ces deux méthodes permettent habituellement de réduire la taille de la trace laissée à l'extérieur de la pièce. Les points d'injection directs pénètrent toujours dans la pièce par l'extérieur, mais ils se situent vers le milieu de la pièce et laissent donc généralement moins de traces. Les points d'injection en sous-marin ne laissent aucune trace visible à l'extérieur de la pièce, car le remplissage s'effectue par l'un des éjecteurs, à proximité du périmètre de la pièce. Il risque de rester une ombre visible sur le côté opposé de la pièce en raison de la chaleur et de l'épaisseur de la pièce. Vous devez donc être prudent si vous utilisez le type de point d'injection pour des pièces très esthétiques qui sont texturées ou qui présentent un haut poli. Les buses chaudes constituent une bonne solution car elles génèrent un minimum de déchets au niveau du système d'alimentation, carottes et canaux. Une buse chaude est idéale pour les pièces dont le remplissage doit être équilibré entre le centre et les bords. Cette méthode limite les changements de moule, les points d'injection en nappe pouvant provoquer un déséquilibre de pression à l'intérieur du moule. Les buses chaudes sont habituellement les points d'injection les plus attrayants sur le plan esthétique, environ 1,3 mm de diamètre, et de plus, elles peuvent souvent être cachées dans une encoche ou autour d'un logo ou d'un texte. Enfin, les carottes à seuil direct sont les points d'injection les moins attrayants. Elles sont utilisées avec certaines résines qui ont une forte teneur en verre ou lorsque le milieu de la pièce nécessite un usinage secondaire. Les carottes à seuil direct ont un gros diamètre qui rend leur extraction manuelle difficile et nécessite souvent un support qui est retiré par fraisage. L'assistance technique. La maîtrise des techniques qui permettent d'améliorer la moulabilité des pièces facilite le passage au moulage par injection en petite, voire en grande série. La prochaine étape est simple. Téléchargez votre modèle CAO 3D en ligne et vous recevrez en quelques heures un devis interactif accompagné d'une analyse de faisabilité gratuite. Comme nous l'avons vu, cette analyse de faisabilité vous signalera les éventuels problèmes de conception et vous proposera même des solutions. Nous vous recommandons de coupler cette analyse de conception à une conversation avec l'un de nos techniciens afin d'éclaircir tous les autres doutes que vous pourriez avoir avant le lancement de la production. N'oubliez pas non plus de consulter les nombreux conseils pratiques disponibles sur notre site internet à la rubrique « Conseils de conception » et télécharger le volume 1 et 2 de notre guide sur le moulage par injection. Passons au prochain sujet du jour, 9 défauts esthétiques et comment les éviter. À l'instar de n'importe quel procédé de fabrication, le moulage par injection comporte son propre ensemble de conseils de conception et les ingénieurs d'études qui comprennent ces meilleures pratiques augmenteront leurs chances de développer des pièces et des produits à la construction solide et à l'aspect attrayant. Si après figurent certains des défauts esthétiques communs se produisant sur les pièces moulées par injection en plastique, ainsi que des conseils sur la façon de les éviter. Les rotassures. Le terme imagé de rotassure s'applique à un bourrelet ou à une dépression peu profonde sur la surface d'une pièce moulée. Elle est provoquée par des sections plus épaisses que d'ordinaire, une conception de pièce non uniforme ou un positionnement de point d'injection incorrect, passage par lequel le plastique chaud entre en premier dans l'empreinte du moule. Certains plastiques tels que le polypropylène et l'acétal sont très sujets à la rotassure, alors que les matières chargées fibres et verres ont moins tendance à présenter des rotassures. Protolabs met à votre disposition des recommandations d'épaisseur de paroi consultables sur notre site. Nous conseillons d'éviter les écarts de plus de 60% entre les parties les plus fines et les plus épaisses. La matière doit autant que possible s'écouler dans le moule de la partie la plus épaisse à la partie la plus fine. Ceci peut nécessiter une réorientation de l'empreinte du moule ou le positionnement du point d'injection dans une zone réservée à l'origine à une surface d'aspect esthétique. Gauchissement. Une pièce conçue avec des parois trop minces pour le matériau cible risque fortement de se gondoler comme une chips. Ce phénomène est désigné par le terme de gauchissement et peut être évité aisément en suivant les mêmes règles que pour la rotassure, c'est-à-dire en respectant les indications générales d'épaisseur de paroi. Il est ironique de constater que les matières chargées à verre, qui sont bien compatibles aux pièces sujettes à la rotassure, ont davantage tendance au gauchissement. Ceci tient au fait que les fibres de verre ont tendance à s'aligner selon le flux de remplissage et provoquent des contraintes internes. Les pièces dotées de supports internes, comme par exemple des goussets de support des parois minces ou le nervurage de grandes surfaces plates, résistent mieux au gauchissement. Traînée. Une dépouille suffisante constitue une partie importante de toute conception de pièce, au même titre qu'un outillage rapide. Les parois verticales, c'est-à-dire les surfaces de pièces parallèles au sens de fonctionnement du moule, doivent présenter un angle de dépouille minimum d'un demi-degré, 2 degrés étant encore mieux. Les surfaces fortement texturées peuvent nécessiter un angle d'au moins 5 degrés. En l'absence d'une dépouille adéquate, l'éjection de la pièce s'avère difficile, voire impossible, et il peut se produire des traînées ou des raclures. Bavure. Examinez de près un point torique en caoutchouc et vous pourrez constater qu'il comporte une fine ligne de matière sur sa partie périphérique extérieure. Il s'agit du plan de joint, c'est-à-dire la ligne où se rejoignent les deux moitiés du moule. Avec des matières présentant un écoulement fluide, tel que le centoprène ou le nylon non chargé, une petite quantité de bavure peut parfois suinter dans le plan et nécessite souvent un ébavurage une fois la pièce refroidie. Sur une forme arrondie telle que celle-ci, le choix concernant l'emplacement du plan de joint est très limité, mais nombre de pièces orthogonales comportent des angles vifs, ce qui permet d'obtenir un point bien net au niveau duquel le moule peut se séparer. Qu'une bavure soit ou non présente, un plan de joint est à prévoir pour la plupart des produits moulés. Néanmoins, nous identifierons son emplacement sur votre devis protocôte et pourrons vous suggérer des méthodes permettant de modifier la géométrie de la pièce afin d'éviter la présence d'une bavure. Tourbillonnement. Nous avons plus de 40 colorants standards en stock. Ces derniers sont mélangés à des granulés de plastique naturel immédiatement avant le cycle de moulage et ils se rapprochent habituellement de très près de la couleur cible. Toutefois, le produit final peut varier en raison du polymère utilisé, de la texture et du degré de polissage de l'outil, de même que du tourbillonnement durant le processus de mélange. Si vous recherchez un coloris identique sur vos pièces, il est préférable d'acheter une matière assortie et pré-mélangée auprès d'un fournisseur extérieur. Nous acceptons la plupart des matières fournies par les clients. Ligne de soudure. Ces lignes fines ressemblant à des fissures sur votre pièce moulée par injection peuvent vous préoccuper. Rassurez-vous, il s'agit de lignes de soudure formées à l'intersection de deux fronts opposés de plastique dans l'empreinte du moule. Habituellement, situées au bord d'un orifice ou d'une autre forme évidée, les lignes de soudure ont en règle générale un rôle purement esthétique. Néanmoins, elles peuvent entraîner un point de rupture physique si elles sont présentes dans une zone de la pièce soumise à une contrainte considérable, telle qu'une tête de vis. Dans ce cas, concevoir une saillie de renfort autour de l'orifice constitue une précaution judicieuse, à moins que l'on opte pour l'élimination totale du trou qui sera percé ultérieurement. Imperfection de surface. Si vous sélectionnez une finition non cosmétique PMF0 sur un outil, il est fort probable que la pièce finie présente des petites marques circulaires de fraises et des lignes de raccord d'outils. Si vous recherchez une finition de surface à l'aspect plus attrayant, il peut généralement s'avérer préférable d'opter pour un polissage manuel de l'outil, solution plus coûteuse quoique simple à réaliser. Une finition PMF1 permet de supprimer la plupart des marques d'outils, tandis que l'option SPI A2 permettra d'avoir un rendu polyglace. Les textures réalisées par microbrouillage constituent une autre possibilité et permettent généralement d'obtenir une finition mate uniforme, sauf dans les zones plus épaisses autour des lignes de soudure et dans les matières plus foncées. Il convient de retenir qu'atteindre les fentes et empreintes profondes à polir et texturer est difficile et que les finitions fines peuvent avoir une incidence sur le délai de fabrication rapide du fait de l'effort supplémentaire nécessaire pour effectuer le polissage. Nous proposons 7 options de finition de surface destinées aux pièces moulées par injection. Les traces. La trace du point d'injection est une petite marque disgracieuse laissée sur une extrémité de la pièce lors du retrait du point d'injection une fois le moulage effectué, généralement à l'aide d'une fraise latérale ou d'un couteau à lame de rasoir. Il s'agit d'une réalité incontournable du moulage par injection. Dans l'ensemble, le seul moyen de l'éviter consiste à orienter la pièce dans le moule de sorte que les surfaces à l'aspect esthétique ne soient pas affectées. Ainsi, lors du moulage d'une réplique de la Statue de la Liberté, le point d'injection doit être placé sur la plante des pieds. Lors de l'envoi d'une conception à Protolabs, veillez à toujours vous adresser à un ingénieur de notre service clientèle afin de vous assurer qu'un traitement des surfaces nécessitant un aspect dépourvu de traces est réalisable. Il est possible que nous disposions de moyens de modifier le style du point d'injection en fonction de la matière et de la géométrie de la pièce. La réalisation de cette opération est bien plus aisée durant la phase d'analyse qu'après le démarrage des étapes de conception du moule. Jais, peau d'orange, etc. Divers problèmes peuvent se produire lors du moulage par injection, dont plusieurs peuvent être dus à une épaisseur de paroi dépassant les recommandations générales. Les turbulences, semblables à un tourbillon en forme de verre et qui apparaissent tout particulièrement près des zones de point d'injection, sont provoquées par des variations de température dans l'écoulement de la matière. De même, une surface ressemblant à une peau d'orange peut être provoquée par des variations de l'écoulement dans l'empreinte du moule, généralement au niveau des parties les plus épaisses de la pièce. Des stries argentées et des flocons de matière sont désignés par le terme givrage, et ils peuvent se produire du fait d'une matière humide ou qui s'est dégradée. Toutefois, ces phénomènes peuvent également avoir lieu en raison d'un cisaillement de la matière découlant de vitesses de vis d'injecteur plus élevées que d'ordinaire. Le voile, décoloration trouble qui se trouve généralement près des zones de point d'injection, peut être provoqué par des vitesses de remplissage inadéquates, mais une géométrie et un positionnement de point d'injection incorrects peuvent également contribuer à cet effet. Fort heureusement, la plupart de ces problèmes peuvent être résolus à l'aide de légères modifications de la conception de la pièce et ou en sélectionnant une matière différente. Les géométries de pièces délicates nécessitent généralement un ajustement de la température de moulage, de la vitesse d'injection, des temps de maintien ou de ces trois éléments à la fois. La sélection de la matière joue également un rôle crucial en ce qui concerne les parties à l'aspect esthétique. Citons deux exemples à ce propos, le polypropylène et le HDPE, lesquels ont tendance à former une rotassure davantage que le polybutylène ou l'acétal, même s'ils s'écoulent mieux dans les petites parties détaillées de la pièce. Il est possible de tester des matières différentes à l'aide du même moule, mais malheureusement, Les taux de retrait spécifiques à chaque matière peuvent empêcher une correspondance des dimensions des pièces avec le programme CAD. Dans certains cas, après la réalisation des pièces de plusieurs matières, un nouveau moule peut s'avérer nécessaire pour effectuer des tests supplémentaires ou pour des pièces de production. Voyons maintenant trois éléments clés de conception pour le surmoulage rapide. Le moulage par injection est une technique de fabrication courante et peu onéreuse, très utilisée pour la fabrication de toutes sortes de pièces, des dispositifs médicaux ou jouets en passant par les appareils électroménagers ou les pièces automobiles. Il donne des pièces légères et résistantes qui, dans de nombreuses applications, se substituent au métal coulé ou usiné. Malgré tout, les pièces en plastique moulées par injection ont parfois besoin d'un petit coup de pouce. En effet, pour de multiples raisons, faible résistance au choc ou aux vibrations, surface glissante, mauvaise ergonomie, défaut d'aspect, il faut souvent ajouter une deuxième pièce moulée faisant office de prise, de poignée, de manche ou de cache. Certains fabricants choisissent d'assembler les deux composants moulés avec de la colle, des vis ou par verrouillage mécanique, mais l'opération se révèle coûteuse et chronophage pour des résultats parfois peu satisfaisants. Heureusement, la technique du surmoulage rapide offre une bonne solution. Voyons ici trois points clés du surmoulage rapide. Liaison, matière, principe. Qu'est-ce que le surmoulage rapide ? C'est une technique qui utilise une liaison chimique ou mécanique, et souvent les deux, pour marier deux pièces de façon irréversible. Elle évite les assemblages complexes, simplifie la conception des produits et permet d'améliorer les caractéristiques de nombreuses pièces moulées par injection. Chez Protolabs, le procédé se déroule de la façon suivante. Une pièce préalablement moulée, le support, est replacée dans la presse, puis une deuxième matière plastique ou silicone liquide est injectée sur, dans et autour de ce support. Cette méthode en deux étapes nécessite une paire de moules, un pour le support et l'autre pour l'ensemble du produit surmoulé. Elle nécessite aussi l'intervention d'un technicien pour charger les supports dans la machine et extraire les produits finis. On parle de pick and place. Que dire de plus? Avant de vous lancer dans un projet de conception avant le surmoulage, vous devez étudier plusieurs paramètres importants. Liaison. Le surmoulage nécessite une bonne liaison entre les deux matières. Matière. La matière du support et la matière surmulée doivent être physiquement, chimiquement et thermiquement compatibles. Principe. Le surmoulage est soumis au même principe de moulabilité, mais il présente quelques spécificités. Commençons par la liaison. Sur une pièce surmoulée idéale, il est impossible de séparer la matière surmoulée du support sans qu'elle se déchire ou emporte une partie du support avec elle. Par exemple, les thermoplastiques TPU et TPC forment une liaison chimique forte avec l'ABS, le polycarbonate et le PBT. Le centoprène TPV, qui est un vulcanisat souple mais solide, très utilisé pour les points d'étanchéité, les applications agroalimentaires ainsi que les fils et câbles électriques, est pour sa part plus limité. Il se lie facilement au polypropylène, mais guère plus. Il n'est pas toujours possible d'obtenir une liaison chimique forte. Et c'est même souvent inutile. Prenons le cas d'un couvercle de boîtier électronique moulé, pourvu d'un joint d'étanchéité surmoulé, fait d'une matière souple. Étant donné que le joint ne peut aller nulle part, une fois le couvercle en place, la force de liaison doit être suffisante pour le maintenir plaqué contre le support afin qu'il ne tombe pas et ne bouge pas au moment de la fermeture du boîtier. Cet exemple constitue d'ailleurs une excellente application de surmoulage en évitant l'utilisation d'un joint plat en caoutchouc ou papier découpé à l'emporte-pièce qui nécessite un collage manuel. Nous recommandons généralement de prévoir un verrouillage mécanique en plus ou à la place d'une liaison chimique. Cela nécessite la formation d'une contre-dépouille dans le support ou d'une série de trous dans lesquels la matière de surmoulage pourra s'écouler, créant des ancrages de sécurité pour les applications les plus exigeantes. Il y a de nombreuses raisons de recourir au surmoulage. L'une des plus courantes est l'amélioration de la prise en main d'un produit tout en préservant ses propriétés mécaniques, par exemple la poignée d'un outil électrique ou le manche antidérapant d'un instrument chirurgical. Dans ce cas, du TPU sur de l'ABS constitue un excellent choix. Le surmoulage offre aussi un moyen simple d'améliorer l'esthétique des produits ainsi que la signalétique des marques. Ainsi, une franchise d'articles de sport pourra équiper une équipe de rugby de protège-dents en deux parties aux couleurs du club, tandis qu'un célèbre fabricant de tracteurs pourra habiller ses tondeuses autoportées de capots surmoulés jaunes et verts. Le LSR est une autre matière prisée pour le moulage par injection. Elle présente une excellente résistance à la traction et à la déchirure, est hydrophobe, souple, antibactérienne, anti-UV et biocompatible. Le seul inconvénient du LSR, du moins en surmoulage, est sa température de moulage relativement élevée, de 177 degrés, qui est suffisamment chaude pour ramollir certains supports, notamment l'ABS ou le polyéthylène. Heureusement, le polytéréphtalate de butylène, PBT, et le nylon chargé vert y résistent sans problème. Chez Protolabs, nous proposons plus de 100 matières, silicone liquide et résine thermoplastique technique, et plusieurs dizaines de colorants. Le surmoulage repose sur le même principe que les procédés de moulage par injection classique, avec toutefois quelques particularités. Les deux pièces doivent présenter des angles de dépouille appropriés, une épaisseur de paroi uniforme et des lignes de transition douces. L'épaisseur de la matière de surmoulage doit être inférieure ou égale à celle du support. La température de fusion de la matière de surmoulage doit être inférieure à celle du support. Si une liaison chimique est impossible, ne désespérez pas. Les verrouillages mécaniques constituent une excellente solution pour tout maintenir ensemble. Vous devez y recourir autant que possible. Le texturage du support peut faciliter l'adhérence, tandis que le texturage de la pièce surmoulée peut améliorer la prise en main ainsi que l'esthétique du produit. La surface de la pièce surmoulée doit être de niveau ou légèrement en retrait par rapport aux surfaces adjacentes du support. Le surmoulage est un excellent moyen d'améliorer les propriétés physiques ou l'esthétique de vos produits. Comme pour nos autres prestations de moulage par injection, nous fabriquons des moules économiques pour des séries de 25 à 10 000 pièces ou plus en seulement 15 jours. Si vous souhaitez fabriquer des millions de pièces, le surmoulage rapide constitue également un très bon moyen de tester des prototypes pour la compatibilité de la liaison et des matières, avant d'investir dans des moules de production à double injection ou comme des moules de pré-série jusqu'à ce que ces moules soient prêts. Parce que le surmoulage rapide est plus complexe que le moulage par injection traditionnel, les coûts d'outillage initiaux risquent d'être légèrement plus élevés que ceux des deux pièces moulées et assemblées réunies. Néanmoins, tous les investissements additionnels sont très vite amortis du fait de la suppression des surcoûts d'assemblage et de l'amélioration de la qualité et de la durabilité des produits. Le dernier sujet que je vais aborder aujourd'hui est la conception de la résistance des pièces avec moulage d'insert. Les pièces moulées par injection en plastique sont solides et robustes, ainsi que capables de résister à des charges élevées, à des températures modérément élevées et aux effets corrosifs des acides et des alcalis. Dans certains cas, le plastique concurrence même le métal, et il est plus léger et résolument moins coûteux. Malgré tout, le plastique a parfois besoin d'un petit coup de pouce. L'alésage d'une poulie réalisée entièrement en plastique s'usera rapidement. Les trous taraudés des poignées et boutons moulés ont tendance à s'user. Alors qu'en renforçant ces zones à l'aide de métal, un tourillon de palier en laiton par exemple, ou un insert fileté en acier inoxydable, la solution obtenue réunit les avantages de chaque parti pris. Découverte du moulage d'insert. Protolabs propose un moulage sur insert rapide. Plutôt que de réaliser l'assemblage a posteriori, nombre d'inserts en métal de taille et de type différents peuvent être placés directement dans le moule avant l'injection de plastique, ce qui élimine les opérations secondaires et assure un solide jointement du métal et du plastique. Avant de laisser libre cours à votre imagination pour retravailler la conception de vos pièces en vue du moulage d'insert, certains points sont toutefois à retenir, lesquels sont présentés ici. En quoi consiste le moulage d'insert et qu'apporte-t-il par rapport au surmoulage? Ma pièce fonctionnera-t-elle avec un moulage d'insert? Quels plastiques peuvent être utilisés? Quels sont les inserts disponibles et où puis-je les acheter? Et qu'en est-il des critères de conception des pièces? Le moulage d'insert présente des similitudes avec le surmoulage. Ils intègrent tous deux des matières disparates dans une même pièce, améliorant de ce fait les propriétés de cette dernière. Ces deux processus augmentent légèrement le coût des pièces moulées, mais ce delta de prix est généralement compensé par l'élimination des opérations manuelles postérieures au moulage. Et le délai d'exécution pour les pièces surmoulées et les pièces avec moulage d'insert est de 15 jours, période un peu plus longue que le délai de livraison du moulage par injection d'une seule pièce, ce qui est néanmoins toujours plus rapide que le moulage d'insert traditionnel. Mais alors que le surmoulage est un processus en deux étapes, nécessitant un seul cycle pour le support et un autre pour la pièce surmoulée, le moulage d'insert s'effectue en une seule opération. L'insert fileté, la bague, le manchon ou le bossage sont placés manuellement dans le moule se referme, le plastique s'écoule, le moule s'ouvre et la pièce est éjectée. Il en résulte une robustesse et une fiabilité accrue de la pièce. De plus, l'utilisation du moulage d'insert offre un autre avantage dans de nombreux cas. La réduction du poids du produit. Le poids est allégé lorsqu'une pièce en plastique comportant des inserts en métal remplace une pièce réalisée entièrement en métal. Et comme indiqué précédemment, le coût global de la pièce est fréquemment inférieur pour les pièces avec moulage d'insert par rapport à une opération effectuée sur la zone de montage. Quelles pièces conviennent au moulage d'insert? En termes simples, le moulage d'insert doit être évalué pour toute pièce contenant un trou taraudé. Un boîtier électronique ou une trousse d'instruments médicaux dotée d'un couvercle boulonné en sont de bons exemples. Les boutons, poignées ou cadrans se vissant sur un goujon fileté constituent également des exemples à retenir, tout comme un collecteur d'air ou hydraulique en plastique, nécessitant une robustesse supplémentaire dans les zones filetées. En fait, presque tout composant en plastique fixé à une pièce d'accouplement au moyen de vis ou de boulons bénéficiera de l'utilisation de fixations moulées. Une pièce rotative, telle qu'une lame de ventilateur ou un engrenage d'entraînement, constitue un autre élément se prêtant bien au moulage d'insert. Ici, une bague en bronze ou en laiton est moulée dans la pièce et elle sert de surface d'appui, ce qui améliore fortement la durée de vie du produit par rapport aux pièces dépourvues de bagues. Une scie chirurgicale nécessitant une poignée en plastique pourrait être dotée d'un moulage d'insert si la taille le permet. Les roues et les pignons, les poulies et les vrilles, presque toute pièce nécessitant une robustesse ou une robustesse à l'usure élevée dans certaines zones, constituent très probablement des éléments adaptés au moulage d'insert. Quels thermoplastiques peuvent être utilisés pour le moulage d'insert? Il existe certaines limites. Les matières techniques en plastique rigide telles que le Delrin ou le nylon constituent de bonnes options, tout comme le polyéthylène et l'ABS. Mais il est également possible d'utiliser des pièces en silicone liquide, LSR. La plus grande contrainte provient des plastiques associés à des températures de moulage très élevées, telles que les PEI, ULTEM ou les PIC. Les inserts sont chargés manuellement dans les locaux Protolabs et le processus de moulage rapide utilisant des outils en aluminium non refroidi pour réduire le coût de la pièce et accélérer le délai de livraison, placer un insert dans un moule ayant été chauffé à une température de plusieurs centaines de degrés est comparable à une personne mettant la main dans un four chaud pour attraper un biscuit tout juste cuit. Si elle ne fait pas attention, elle se brûlera les doigts. Les règles portant sur le moulage d'insert ne diffèrent pas de celles associées au moulage par injection standard. Veillez à maintenir des angles de dépouille appropriés et à ce que les épaisseurs de parois soient uniformes éliminer les contre-dépouilles et éviter les éléments superflus et les finitions de surface super fines chaque fois que cela est possible. Tous ces conseils sont valables et s'appliquent également au moulage d'inserts. Toutefois, cette petite quantité de métal demande la prise en compte de critères supplémentaires. Comme évoqué plus haut, Protolabs charge manuellement tous les inserts. Cela signifie que l'opérateur doit avancer la main dans le moule afin de déposer l'insert, et le moule étant généralement assez chaud, il doit porter des gants. Les inserts dont la largeur est inférieure à 3,17 mm peuvent être problématiques, tout comme les inserts trop grands pour tenir sans problème dans une main. De même, l'emplacement de l'insert ne doit pas se trouver trop en profondeur à l'intérieur du moule. Un espace de deux fois la taille de la main pour une profondeur d'une fois la taille de la main constitue une règle judicieuse à suivre. Et tenir compte du fait que Protolabs devra peut-être orienter la pièce différemment afin de pouvoir s'adapter au placement et à la rétention de l'insert. Les moitiés de moule glissent ensemble dans le sens horizontal, et si l'insert tombe durant la fermeture, le moule risque d'être endommagé. La taille des inserts doit également être uniforme. Nous recommandons une tolérance de plus ou moins 0,05 mm sur les surfaces de positionnement afin d'éviter les risques de bavure. Enfin, des lignes de soudure se produisent lorsque du plastique fondu s'écoule autour d'un objet et rejoint l'extrémité opposée, phénomène tout à fait possible en présence d'inserts. Ces lignes sont généralement esthétiques, mais elles peuvent entraîner la formation ultérieure de fissures. Les matières chargées vert permettent d'atténuer ce problème, tout comme le renforcement des parois dans ces zones, jusqu'à un certain point. Des parois ou des nervures légèrement plus épaisses autour de la zone entourant l'insert sont conseillées afin de soutenir l'insert et empêcher qu'il ne bouge. Comme toujours, ces questions ainsi que d'autres préoccupations ou suggestions seront expliquées clairement dans l'analyse de faisabilité, DFM, fournie avec votre devis. Enfin, comme toujours, si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter notre site web protolabs.fr ou nous contacter par téléphone au 04 56 64 80 50 ou par courriel à customer service at protolabs.fr. Si vous avez aimé écouter notre podcast, vous pouvez également vous inscrire pour recevoir les mises à jour mensuelles et les téléchargements de podcasts. Merci et à très bientôt pour de nouveaux conseils de conception.